Bonjour à tous, j'espère que ça se passe bien pour vous ce matin. On va parler de pénurie de logements tout de suite. Je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes obligé de déménager plus loin que là où vous habitez en ce moment pour vous loger convenablement? Vous savez qu'on vient d'apprendre quel est le taux d'occupation à Montréal. Et c'est vraiment, si c'est le plein emploi au Québec, c'est aussi le plein logement. En fait, il y a très, très peu de logements vacants. C'est comme si les gens avaient compris qu'ils sont aussi bien de rester où ils sont. Et ceux qui sont dans l'obligation de déménager, ou les nouveaux arrivants ici au Québec, ou dans la région de Montréal en particulier, là où c'est vraiment critique, là on parle carrément de crise du logement, bien ceux-là se rendent compte que c'est pas évident. On voulait en parler ce matin parce que c'est vrai que là, on se rend compte que les gens sont obligés d'aller à l'extérieur de la métropole ou même des limites là, de la couronne métropolitaine. Il y a du monde, là, ils sont rendus pas mal loin là, pour être capables de se payer. Il y a la disponibilité qui manque, mais il y a aussi le coût du logement. J'ai hâte de vous entendre là-dessus parce que c'est un sujet qui nous touche particulièrement. Tu sais, dans la vie, là, c'est combien ça te coûte pour te déplacer, combien ça coûte pour te loger et combien ça coûte pour te nourrir. C'est pas mal ça qui est central, là. Les postes importants de votre budget, ce sont ceux-là. Hans Brouillette est directeur des affaires publiques de la CORPIC, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Bonjour Hans.
Bonjour Isabelle.
Avec nous également Marie-Josée Corriveau, qui est coordonnatrice du FRAPRU, le Front d'action populaire en réaménagement urbain. Merci Marie-Josée d'être là. Bonjour. Je commence par vous Marie-Josée, oui. Parce que vous êtes tous les jours confrontée avec des gens qui vous appellent, qui vous disent hey, « là, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas capable de trouver des logements ». Abordable surtout, et dans un environnement aussi assez près de là où ils peuvent travailler. Vous voyez ça là, de plus en plus.
Oui, effectivement, de plus en plus. Puis des histoires abracadabrantes du genre des gens qui ont l'impression d'avoir trouvé le logement, mais se font rappeler par le propriétaire après une visite et un accord tacite, un accord verbal, en disant, ben écoute, finalement, il y a quelqu'un qui est prêt à m'offrir 50 $ de plus et tu es prêt à en offrir 100 de plus, toi.
Oh, il y a la surenchère
à l'heure actuelle, oui.
Et là, est-ce que c'est légal d'abord, ça?
Ben, en théorie, non, puisque normalement, un propriétaire doit inscrire dans son bail le prix de l'ancien loyer, sauf que plusieurs ne le font pas, puis il n'y a pas vraiment... C'est difficile pour les locataires. Il n'y a pas vraiment d'outils pour les locataires pour connaître l'ancien loyer. C'est pour ça qu'il y a une invitation pressante faite aux locataires qui déménagent de laisser leur ancien bail pour le futur, afin qu'ils puissent au moins en être informés. Et après ça, ils pourront avoir des recours auprès de la régie du logement. Mais sans cet accord-là ou cette solidarité-là entre locataires, il n'y a pas vraiment de moyen de le connaître.
Oui. Hans Brouillette, évidemment, en ce moment, là, ceux qui ont le beau jeu, ce sont les propriétaires de logements.
Oui, certains diront enfin, parce que pendant des années, ça a été difficile. Mais depuis 2 ans, les choses ont rapidement changé. Ça demeure quand même tout est tributaire de l'offre et de la demande. Alors, quand la demande explose et que l'offre ne suit pas, ben la conséquence est évidemment une plus grande rareté de logements et possiblement des prix à la hausse, là, surtout dans certains secteurs.
Est-ce que, justement, parlons de ces secteurs où ça augmente, parce que je pense qu'il y a des locataires, il y en a quelques-uns qui m'ont écrit dernièrement, qui me disaient « ça n'a pas de bon sens, est-ce que je devrais renouveler quand même mon bail, mon propriétaire vient de m'augmenter de 100 $ C'est énorme, là, sur un logement de 800 $ 100 $ écoute, c'est un huitième d'augmentation. Là.
Ben moi, je dirais, pour avoir été locataire au début des années 2000, quand il n'y avait pas de logement disponible sur le marché, il n'y avait pas de pancarte à l'époque sur les balcons, les locataires étaient plus enclins à dire au propriétaire, ben, je vais renouveler mon bail. Donc, ils restaient dans leur logement plutôt que de prendre le risque de se retrouver sans autre option. Et par le fait même, ça contrôle les loyers, parce que si les locataires ne déménagent pas, le propriétaire peut bien leur envoyer une augmentation de loyer très élevée. Si le locataire refuse, le propriétaire devra la justifier devant le tribunal et il n'obtiendra pas une augmentation de 100 $ c'est évident. Donc,
Est-ce qu'on voit une augmentation, la régie du logement, donc de cause où les locataires vont un peu s'ostiner sur son augmentation de loyer?
Non, en fait, d'abord, c'est pas le locataire, c'est toujours le propriétaire qui doit s'adresser au tribunal, mais non, on est en chute libre. Le taux, pas le taux, mais le nombre de causes qui vont en fixation de loyer au tribunal, le nombre a chuté drastiquement là, au cours des dernières années. Peut-être que ça augmentera prochainement, on verra.
Mais chose certaine... Je comprends pas, parce que dans le fond, quand un locataire se voit augmenter de façon un peu trop poussée le prix de son loyer, ben, il peut refuser. Oui, mais il peut aussi demander une... Ah oui, je comprends.
Oui, non, lui a juste à refuser. Si le propriétaire, il tient à son augmentation, ça va être difficile de l'obtenir parce que 50 ou 100 $ on est nettement au-dessus
des critères. Je pensais à des cas, par exemple, où c'est un nouveau locataire qui signe le bail et que là, il se rend compte que l'ancien bail était beaucoup moins. Là, c'est là qu'il peut aller à la régie, effectivement.
Exactement.
Et ça, des cas comme ça, est-ce qu'on en voit aussi?
Il y en a quelques centaines par année, mais ça reste quand même très peu. Sauf qu'il faut comprendre une chose, c'est que le propriétaire... s'il est confronté à cette situation-là, n'aura pas envie, effectivement, de se retrouver devant le tribunal. Donc, probablement qu'il y a bien des cas où ça se négocie. Mais il y a aussi des locataires qui disent, regardez, j'accepte le loyer.
Oui,
je
suis
informé. Ils n'ont pas le choix, mais ils ont répondu à une annonce à 800 ou 900 $ Ils ont visité à 800 ou 900. Ils ont signé à ce prix-là. Alors, ça serait malvenu de dire, finalement, je change d'idée.
S'ils se rendent compte que la hausse est excessive, si la hausse est excessive...
Par rapport à quoi? Si le loyer était nettement en bas du marché avant...
Je regrette, mais à l'heure actuelle, les règles de fixation de loyer tiennent...
Ça fait votre affaire, mais le loyer n'a peut-être pas augmenté pendant 10 ans.
Ça fait pas notre affaire personnellement. Il faut arrêter de considérer le logement comme une occasion d'affaires, comme le placer juste dans une relation d'offre et de demande. C'est un besoin essentiel et il y a des gens actuelle à Montréal et au Québec qui n'arrivent pas à se loger convenablement, voire qui n'arrivent pas à se loger du tout parce qu'il y a une explosion du prix des loyers. On ne cesse pas de considérer ça comme une occasion d'affaires. Nous, ce qu'on dit, c'est fort heureusement, il y a la régie du logement qui est loin d'être parfaite, mais fort heureusement qui vise à reconnaître que ce n'est pas une marchandise ordinaire, ce n'est pas un bien de consommation ordinaire, c'est un besoin essentiel et on doit respecter les règles qui sont de fixer les prix en fonction des anciens prix. Cela dit, ça je regrette. Ça, vous l'avez dit vous-même d'entrée de jeu, ce qui crée la rareté, c'est la croissance économique. Il y a de plus en plus de ménages qui se forment et ça crée une pression sur le marché. Par ailleurs, la régie étant loin d'être parfaite, laisse partir une partie du parc locatif qui est abandonné, qui est transformé en condo, qui est transformé en pour de l'hébergement touristique. Il y a une perte à ce niveau-là dans le parc plus modeste d'ailleurs et la construction notamment à Montréal. Ça a été surtout des condos au cours des dernières années, au cours des dernières années en particulier.
À des prix
exorbitants, inaccessibles. Par rapport aux revenus des ménages locataires, on s'entend.
Non, le revenu des ménages locataires, j'ai eu les données cette semaine.
Oui, allons-y là-dessus.
Cette semaine, on a obtenu les données de Statistique Canada. Les revenus des locataires nets après impôts augmentent plus vite que le loyer moyen au Québec. Ce qu'il faut comprendre, là, regardez, on est dans un marché d'offres et de demandes. Le marché répond à une demande. Si, bien sûr, il y a des irrégularités ou des problèmes dans le marché, là, le gouvernement intervient. Mais globalement, il faut que le marché puisse répondre à la demande. Mais pour répondre à la demande, considérant les coûts de production de logements, il faut avoir des gens qui sont prêts à payer les loyers en conséquence. On a des coûts de main-d'œuvre très élevés au Québec. Il y a une loi, c'est la loi R20, qui est administrée par la Commission de la construction du Québec. Il y a des coûts de construction qui sont élevés. Il y a des normes élevées aussi de sécurité du bâtiment, sécurité incendie, accessibilité. Les villes aussi ont leurs exigences réglementaires en urbanisme, architecture. Il y a des frais de parc aussi quand on a des nouveaux projets. Et il y a le fameux 20-20-20 qui s'en vient. Là, la ville veut imposer 20 % de logements sociaux, 20 % de logements abordables dans les nouveaux projets, 20 % de logements familiaux. Alors ça occasionne des coûts. Et lorsque le marché ne peut pas payer ces coûts-là, évidemment, les promoteurs se disent, moi, je ne peux pas produire des logements même s'il y a une demande, parce que l'offre est là, la demande est là, mais les deux ne se rencontrent pas.
Mais Hans,
c'est là que l'État doit intervenir.
Vous êtes à la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, dans la région de Montréal et ensuite au Québec en général, mais je pense qu'à Montréal, c'est particulier dans la région. Est-ce qu'on sait quelle est la part en pourcentage des petits propriétaires versus les grandes corporations immobilières?
Bon, les petits propriétaires sont très majoritaires. Là, on parle de 80 %, ce sont des petits propriétaires.
Des gens qui ont comme un duplex, un triplex.
Oui,
mais ils possèdent une minorité.
Je m'excuse, c'est pas une minorité. Je suis d'accord que c'est pas 80 % des logements qui sont détenus par des petits, parce qu'il y a des grandes corporations qui en ont des centaines, voire des milliers. Mais c'est plus que la moitié des logements qui sont aux mains de petits propriétaires.
Mais c'est intéressant ce que Marie-Josée, parce que c'est ça que je voulais un peu savoir.
Mais ils sont en train de disparaître.
Le 20 % qui reste, ce 20 %-là
possède 40-45 % des logements dans la région de Montréal.
Fait que ce 20 %
date de temps?
Dans la grande région de Montréal. Vous savez quoi? Il y a de moins en moins de petits propriétaires et il y a de moins en en moins de logements dans les petits immeubles.
Puis il y a de plus en plus de grands édifices qui se construisent. Donc, c'est sûr que je suis étonné de cette proportion-là.
Ce n'est plus rentable sur une base d'administration d'un petit immeuble.
Acheter un duplex, ou un triplex.
Acheter un duplex à 500 000 $ là, qui va être capable de rentabiliser ça avec deux loyers à 700 là. Je veux dire, c'est en plus qu'il y a souvent des travaux à faire. Donc, ce qui peut être produit, ce sont des logements dans des plus grands immeubles, il y a des économies d'échelle, mais on se leurre pas, là, on parle de loyers qui sont nettement en haut de 1 000 $ 1 200, 1 300, 1 500 $ Alors, c'est ça que ça coûte aujourd'hui au Québec, en tout cas à Montréal, pour fournir du logement. Alors, c'est évident que l'offre ne répond pas à la demande qui est en explosion due aux facteurs dont on a parlé, l'emploi.
Oui, Marie-Josée Corriveau.
Alors, au regard de ça, le revenu des ménages, lui, il n'augmente pas. Il a beau augmenter...
Il
n'augmente pas à la hauteur pour pouvoir assumer ces prix-là. À l'heure actuelle, le revenu des ménages locataires, on parle des données du recensement de 2016, c'est les dernières qui sont disponibles.
Nous, on a des données annuelles, là, ici. Là.
Mais c'est le reflet des données du recensement. Cela étant dit, le revenu des ménages est de l'ordre de 38 000 $ à Montréal, moins de 38 000 à l'échelle. Le revenu des ménages, pas des personnes, des ménages. Quand tu as un revenu de cet ordre-là, tu ne peux pas payer un loyer de 1 500 ou de 1 000 $ J'augmente. Ça, là, dans les quartiers centraux de Montréal, on est plus proche du 2 000 $ par mois. Là. Ça, c'est absolument inabordable. Et on parle de quartiers qui, il n'y a pas si longtemps, avaient des loyers beaucoup plus bas. À travers ce lot-là, regardons ceux qui déjà ont un taux d'effort démesuré, c'est-à-dire qu'ils doivent consacrer plus de 30, voire plus de 50 % de leurs revenus pour se loger. Là, on parle de loyers qui ont chuté drastiquement, puis qui sont de revenus, pardon, qui sont de l'ordre de 18 000 ou de 11 000 $ par année, par ménage. Alors, évidemment, on peut pas, il faut se sortir de la logique du marché si on veut être capable de garantir à tout le monde un toit au-dessus de la tête et de vivre dans la dignité. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, les interventions des gouvernements sont absolument déplorables. Je pense que là-dessus, on va s'entendre, M. Brouillette et moi. Il y a eu non seulement un abandon face au marché locatif qui était en train de partir à volo. Il y a, à notre avis, un abandon quant à la croissance des coûts de logement et à la croissance des coûts de construction. Il n'y a aucun outil mis à la disposition des locataires pour être capable de confronter des augmentations abusives, des avis efficients, je dirais. D'ailleurs, il y a moins de 1 % des loyers qui sont fixés par la Régie du logement. La majorité, la très, très grande majorité, sont fixées.
Donc, on pourrait éliminer la fixation de loyer, si c'est pas plus important que ça.
Non, il faut, si elle est si peu utilisée, c'est parce qu'elle est si peu promue aussi. Là, ça, c'est l'autre problème. La Régie du logement ne donne pas d'informations ni aux locataires, j'oserais même dire, ni aux locataires, des propriétaires qui nous appellent parfois, en disant qu'ils réussissent pas à avoir la ligne. Et il y a des informations élémentaires qui sont pas transmises par la Régie du logement.
Ouais. On va, comme vous voyez, il y a déjà des gens qui veulent intervenir sur nos lignes téléphoniques. Vous pouvez nous appeler dans la grande région de Montréal en faisant le 514-790-9850. Sans frais partout au Québec, c'est le 1-866-790-9850. Dites-moi si vous êtes en train de essayer de trouver un logement. Est-ce que vous êtes obligé de regarder un peu plus loin que là où vous habitez pour vous loger convenablement? Quand je dis convenablement, ça veut dire un logement qui soit assez grand pour vos besoins, pas trop cher non plus. Dites-moi si le logement représente une pression là, qui commence à être un peu indue là, sur votre budget. On vous parle dans 2 minutes. On est en pleine pénurie de logements. Il y en a même qui parlent carrément d'une crise du logement dans la région de Montréal. Est-ce que vous êtes obligé de déménager plus loin pour vous trouver un logement qui est convenable, qui répond à vos besoins, qui est aussi raisonnable en termes de prix? On sait que le logement, on dit souvent, là, faut pas dépenser plus de 25 % de ce que vous gagnez en logement. Il y a des gens, là, je vous le dis, ils m'écrivent, ils me disent, moi, c'est quasiment la moitié de mon salaire que je passe pour me loger, là. C'est beaucoup d'argent. On a Marie-Ève qui est avec nous. Vous êtes locataire, Marie-Ève, bonjour.
Bonjour.
Racontez-nous un
peu. Oui.
Est-ce que vous cherchez à vous reloger?
Non, en fait, moi, c'était juste un petit commentaire à vos deux invités. J'aimerais entendre un petit peu leurs opinions sur cette situation-là. Moi, j'avais une maison que j'ai décidé de vendre. Et ne sachant pas trop où aller, je me suis dit, bon, tiens, on va se louer un beau condo neuf, une construction neuve. Mmh. On a emménagé au mois d'août et évidemment, le renouvellement du bail est arrivé au mois de février comme prévu, avec une super belle augmentation d'un beau 50$ par mois. Alors, à ma grande surprise, j'ai pris un instant d'appeler évidemment la régie du logement pour me faire dire que les constructions neuves, ouais, le propriétaire, dans les 5 premières années, a le droit d'augmenter le montant qu'il désire. Il peut décider de donner une augmentation de 200$ et si ça fait pas notre affaire, eh bien, malheureusement, on doit quitter.
Ah,
alors,
ouais,
j'aimerais avoir l'opinion de vos invités, parce qu'on s'est fait dire qu'il y a une section sur le bail, je crois la section F ou quelque chose comme ça, qui stipule que oui, le propriétaire, pour les 5 premières années de construction neuve, est dans son droit d'augmenter le montant qu'il désire.
Mmh, voyez-vous, moi, je pensais que c'était 1 an.
Non,
je pensais
non, pas que c'était 5 ans.
C'est clairement indiqué.
5 ans.
Ouais,
ouais.
Ouais, c'est long, 5 ans?
Oui. C'est long, puis ça fait en sorte que ça crée une pression importante sur le prix des loyers environnants également, parce que il y a des hausses qui sont pas justifiées dans les faits normalement, et dans le voisinage, même s'il n'y a pas eu de travaux dans les immeubles voisins, ça crée une pression sur le prix
mais
des loyers.
Mais est-ce qu'il faut être le premier locataire d'un logement neuf, ou c'est dans les 5 ans?
C'est les 5 ans.
Mais c'est bien écrit sur le bail. Si c'est pas indiqué, cette section F n'est pas remplie, le locataire n'est pas... en fait, le locataire est protégé. Mais là, le locataire qui
si c'est pas rempli, c'est-à-dire...
Oui, si le propriétaire n'a pas rempli la section F pour déclarer que c'était effectivement un nouveau logement, un nouvel immeuble, le locataire bénéficie du contrôle des loyers.
Est-ce qu'il l'avait rempli, Marie-Ève, votre propriétaire?
Oui, tout était fait en bonne et due forme, mais c'est juste que je me dis qu'on s'attend à une augmentation logique du coût de la vie, comme on s'entend que nos salaires n'augmentent pas à cette vitesse-là.
Ouais.
On s'entend qu'on a fait un choix d'être dans un beau condo quand même neuf. Là, je suis pas à plaindre de ce côté-là, le salaire le permet, mais c'est juste le principe, tu sais.
Ouais.
Moi, j'ai pris le temps de m'asseoir avec mon propriétaire puis lui demander, ben, c'est quoi les améliorations locatives que tu fais qui peut justifier ce montant-là, puis de me répondre. Ah ben ça a coûté plus cher les coûts, nani nana, un peu du n'importe quoi. Bref, j'ai réussi à m'entendre, puis je suis bien contente de trouver un terrain d'entente pour réduire ce 50-là à 35.
Mais à la décharge des propriétaires, Marie-Ève, vous avez raison de votre côté, mais dans le même temps, il y a beaucoup de propriétaires aussi qui, dans la première année de prise de possession de leur nouvelle construction de condo, ils se font dire souvent quand moi ça m'est arrivé, tu signes, tu dis OK, combien ça coûte de frais de condo, on sait pas, mais ça va être autour de 75 à 120 $, inquiétez-vous pas. Là, tu reçois ton premier bill, puis tu apprends que c'est 175 ou 200 $. Là, c'est comme aïe aïe, t'étais pas préparé à ça, là.
Non, c'est ça. Ben, je voulais juste partager cette expérience-là parce que je suis pas. Tu sais, des fois, les gens ne sont pas au courant, ou des fois, on est tellement content, on signe le bail, puis on porte plus ou moins attention à les petites lignes, les petits détails. Puis je pense que c'est juste un point là qui est important à savoir pour quand on signe pour une construction neuve en location.
C'est un autre exemple du travail que la régie du logement devrait faire pour informer adéquatement tous les locataires sur les différentes circonstances. À l'heure actuelle, le travail de la régie du logement en matière d'information de la population...
On n'entend pas beaucoup parler.
Du tout.
On a Maxime avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute?
Oui, ben c'est ça. En fait, moi, je suis nouvellement propriétaire depuis bientôt 2 ans, là, en octobre. Puis moi, j'ai acheté sur l'île de Montréal avec des amis parce que justement, mon revenu me permettait pas d'être propriétaire à Montréal, tout simplement, tellement les prix sont élevés. Puis on a fait des rénovations dans la première année pour... c'est un duplex, en fait, qu'on a acheté à 3 copropriétaires.
Ah oui, OK. Ben c'est ça. J'étais curieuse de savoir comment vous aviez pu trouver la mise de fonds.
Oui, ben c'est ça, à 3.
C'est ça. Ben ouais, c'est une bonne idée.
Ben c'est ça. Puis on a affiché le troisième logement, en fait, qu'on a ajouté pour en faire comme un triplex, là, si on veut, avec le sous-sol. Puis le logement, quand on l'a affiché sur Internet, on se faisait pratiquement envoyer promener à cause du prix qu'on demandait. Puis c'est ça, c'est des commentaires que moi je trouve qui étaient quand même gratuits. Mais tu sais, moi ce que je trouve, c'est que les locataires aussi, je pense qu'ils réalisent pas à quel point les nouveaux propriétaires ou avoir accès à la propriété à Montréal, c'est cher. Puis le montant qu'on demandait, ça couvrait à peine les frais fixes, là, incluant là, les montants que nous, on se disait disais, là, avec les entre copropriétaires aussi. Là.
Mais les locataires ne sont pas responsables de cette situation-là. On ne peut pas leur reprocher. Puis leur revenu, il n'est pas élastique. Là. Donc, on ne peut pas juste se plaindre du prix de l'immobilier qui est beaucoup dû à la spéculation foncière, qui est beaucoup dû à l'exercice des promoteurs immobiliers qui font de la surenchère eux-mêmes. Il y a des histoires de logements, de surenchère sur le loyer. On l'a aussi entendu pour de la surenchère sur des acquisitions en condo. Donc, les promoteurs font énormément d'argent à l'heure actuelle.
Mais je pense que
Maxime n'est pas un promoteur. Ils font augmenter.
Non, je suis d'accord.
Locataire, il devient propriétaire.
Je suis d'accord, mais je dis juste qu'à l'heure actuelle, il y a une surenchère sur le prix de l'immobilier. Si l'immobilier est devenu si cher, on ne peut pas le reprocher aux locataires. Ce n'est pas de leur faute. Et leur capacité de payer, elle n'est pas indéfinie. Donc, on ne peut pas juste dire qu'on va régler le problème en reprochant aux locataires de ne pas reconnaître le vrai coût du prix de l'habitation.
Non, je suis d'accord. Les locataires ne sont pas responsables. Il y a des choses qu'ils font aussi. Là. Vous avez des locataires qui en profitent pour sous-louer avec profit, notamment sur Airbnb. Alors ça, c'est un autre débat. Mais écoutez, les coûts augmentent. Hein, les coûts des terrains, les coûts de construction. La réglementation est de plus en plus sévère.
Non, mais la construction, ça n'a pas de bon sens. Hein,
ben, écoutez, on ne peut pas...
Et c'est vrai que dans les cas de condo, il y a beaucoup d'exagération de la part des constructeurs.
Et le prix du terrain.
Mais attention, une chose se vend ou se loue selon ce que la personne est prête à payer. Là. Tant qu'il y aura des acheteurs, il va y avoir de l'offre. Tant qu'il y aura des locataires, il y aura de l'offre. Mais à partir du moment où il y a des promoteurs qui se retrouvent avec des condos invendus ou des logements impossibles à louer, vous allez voir que ça va se corriger dans l'autre direction rapidement. Alors, c'est une question d'offre et de demande. Je comprends que là, on parle de bien des cas où des gens n'ont pas les revenus pour suivre ce que ça coûte aujourd'hui.
Et donc, doivent s'en aller plus loin.
Ben oui, mais il peut aussi y avoir de l'aide supplémentaire du gouvernement pour ces ménages à faible revenu qui n'arrivent pas à suivre ce que ça coûte en 2019.
L'aide quoi commun en ce moment. Ouais. L'allocation logement, c'est une aide de 56 $ par mois.
On parle de supplément au loyer.
Puis il faut être pauvre, là.
Oui, puis il faut être très pauvre. Dans le cas du supplément loyer,
c'est des centaines de dollars.
OK, un à la fois,
dans le cas du supplément loyer, les unités sont limitées. Ce n'est pas à disposition. Il faut être inscrit sur une liste d'attente des HLM. À l'heure actuelle, la liste d'attente des HLM à Montréal est de l'ordre de 22 à 24 000 ménages. Ça fluctue, là, mais on est dans ces eaux-là. Et pour avoir...
Là, il y a 24 000 ménages qui attendent.
En attente de HLM à l'heure actuelle à Montréal, autour de 24. C'est peut-être 23 000 quelque chose, là, mais on est dans ces eaux-là. Et la moyenne pour obtenir un HLM, incluant un supplément au loyer, c'est de l'ordre de 10 ans à Montréal. Mais ce n'est pas la solution immédiate. Et selon nous, l'expérience nous a démontré que dans les moments de pénurie de logement, les propriétaires ne veulent pas des suppléments au loyer. Alors, l'Office municipal d'habitation qui gère le programme doit se tourner vers le secteur sans but lucratif qui, lui, évidemment, est prêt à les accueillir.
J'ai Denise qui m'écrit dans le site qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits propriétaires qui ne veulent même plus louer leur logement à cause des locataires qui ont eu très longtemps des problèmes, qui ont été très longtemps la source de problèmes. Elle dit, moi, je les comprends. Si je pouvais, je ferais pareil. Donc, on comprend qu'elle est propriétaire d'un immeuble, qu'elle a des problèmes. On a David avec nous qui est un locataire. Bonjour, David.
Bonjour.
On vous écoute.
Vous avez un beau sujet ce matin. Moi, je suis, locataire, mais j'ai un père et des frères qui sont propriétaires d'un bloc résidentiel et commercial quelque part en Estrie. Et cette année, c'est la première fois que j'ai eu à la régie du logement pour mon propre logement à Longueuil. Et puis, j'ai été surpris de la mauvaise foi de la propriétaire parce que j'avais fait quelques exercices, à savoir d'appeler la commission scolaire, d'appeler la ville pour savoir si les taxes avaient augmenté ou pas. Et puis, c'est ça. À chaque fois, la propriétaire me disait, vous savez, ça coûte cher, tout augmente. Et en arrivant à la régie du logement, il y avait une personne là, qui était là. Il y a, je pense qu'il appelle ça une régisseur.
Ouais.
Et puis, finalement, ben, elle dit les taxes municipales ont augmenté de 600, les taxes scolaires ont baissé de 600. Et pour ce qui était de l'entretien du logement comme tel, je pense que la propriétaire avait marqué quelque chose comme 13 000 et finalement, c'était 11 000. Fait que finalement, l'augmentation proposée au départ, qui était plus que le, je pense, un 5 % qu'on a le droit s'il n'y a pas de travaux majeurs sur l'édifice, Fait que finalement, c'est ça qui a été...
Vous voulez dire qu'elle exagérait finalement, elle avait beaucoup plus augmenté que nécessaire, c'est ça que vous dites?
Oui, ben ouais. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça, souvent moi j'ai l'impression que les propriétaires se cachent derrière la loi, les normes, et dire, ah ben tu sais, vous savez, ça coûte cher, puis mais à un moment donné, oui, tout coûte cher dans la vie, là, même mon auto coûte cher... à chaque année, ben ça, c'est, je pense que ça fait partie de la game et de la vie. Mais c'est ça, il y a un moment donné.
Mais vous l'avez dit, c'est
on a. De ouais. Certains propriétaires.
En même temps, Hans Brouillette, là, merci David. En même temps, Hans, vous l'avez souvent dit et David le dit, c'est à peu près 5%. C'est ça qu'on a le droit de mettre sur les gros travaux de rénovation?
C'est 2,7. Ça veut dire que ça prend 37 ans pour amortir les travaux. Fait que si vous avez acheté un immeuble puis on a vu les prix, là, ils ont triplé depuis le début des années 2000.
Sur faire le toit, ça te coûte 10 000.
Rapidement, vous vous retrouvez en déficit parce que vous n'avez rien qui va durer 37 ans.
Ouais.
Alors, comment vous allez financer ces travaux? Là, donc, vous espérez que vos loyers vont augmenter, mais si le locataire ne quitte pas, vous avez peu ou pas de chance de pouvoir augmenter substantiellement le loyer pour le remettre au niveau du marché. Vous êtes en difficulté financière et c'est la raison pour laquelle on a un parc vieillissant au Québec. Y a un élément qui est quand même important. Les locataires voient le coût du logement principalement attribuable au loyer, mais tous les coûts de chauffage ou de climatisation des logements qui sont qui sont âgés, là, qui sont très déficients sur le plan de l'efficacité énergétique. Il y aurait beaucoup à faire. Avec des subventions pour pouvoir rénover, améliorer le parc de logements locatifs pour la meilleure performance
énergétique. On l'a enlevé,
énergétique.
Le rénovaire. Moi, j'ai pas compris pourquoi.
On a enlevé
pourquoi,
le rénovaire. Hein?
Sincèrement, c'était une très belle initiative qui était là, qui donnait au moins... Puis c'était pas grand-chose, tu payais quand même 80%. C'était juste un crédit d'impôt, là. On ne partait pas en peur, là. C'était 2000 piastres, là. En plus, c'était 2000 ou 2005, c'est ça? Mais on l'a enlevé.
Ouais. On aurait même dû l'extensionner au marché locatif, ouais. En disant il y a des locataires dans les logements les pires, ouais. qui payent probablement deux fois le prix du chauffage d'un logement dans un immeuble plus récent. Alors, on pourrait baisser les coûts et on pourrait rénover sans que les locataires en subissent des fortes augmentations.
Est-ce qu'on va aller à la pause? On parle de pénurie de logements, évidemment, bien sûr, dans la grande région de Montréal. Vous me direz si dans votre coin, à l'extérieur, partout au Québec, vous avez les mêmes genres de problématiques. On se demande, est-ce qu'il faut maintenant déménager beaucoup plus loin pour être capable de se payer un logement qui a du bon sens? 514-790-9850 et sans frais, 1-866-790-9850. On est de retour avec notre sujet. Je vous demande, est-ce que vous êtes obligé de déménager plus loin pour vous loger convenablement? On parle de pénurie, de crise du logement carrément dans la région de Montréal. On est avec nous, Maxime. Bonjour. C'est intéressant votre histoire, Maxime, parce que vous dites que vous avez eu une augmentation de 75 $ de votre propriétaire.
Cinq dernières années.
Mais expliquez-nous, donc.
Ben, à toutes les années, depuis 5 ans, elle augmente. Je fais mon mea culpa. J'ai eu beaucoup de difficultés dans les 5 dernières années. Séparation, mort de chien, la cour pour pouvoir avoir la garde de mon fils au minimum à 50% du temps. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Disons, j'ai eu quelques difficultés de paiement pendant un certain temps. Donc, en tout cas, la propriétaire, j'ai eu l'impression qu'elle tentait de se débarrasser de moi.
OK.
D'un certain sens. Donc, je subis des augmentations de 5-10 $ chaque année depuis 5 ans.
Donc, en 5 ans, vous avez eu 75 $ d'augmentation par année, c'est ça?
Oui. Puis, ce que je déplore, à quelque part, c'est que si je calcule, c'est un quadruplex qu'elle a acheté en 1991. J'imagine, dans ce temps-là, ça a dû être 400 000 à peu près. Si je fais le calcul de tous les logements, mm-hmm. qu'elle loue, mes voisins à côté, c'est 750, moi 725. En bas, c'est 1470, puis dans le sous-sol, elle a un 3,5 à 500. Ça fait proche de 3500 par mois, ça.
Mm-hmm.
Sacrifice, ça fait longtemps qu'il est payé, son affaire, là. Moi, ce que je trouve, c'est que j'ai l'impression que les propriétaires abusent puis utilisent beaucoup cet argent-là pour s'enrichir, tout simplement.
Mm-hmm.
Puis, aussitôt qu'ils ont... Mon appartement, c'est moi qui déneige les escaliers parce que la compagnie qu'elle loue, ils botchent. En tout cas, elle paye tout le temps le moins cher possible. La seule chose que j'ai fait réparer, moi, ça fait 12 ans que je vis là. Seule chose que j'ai fait réparer à un moment donné, c'est les cadres de porte parce que les portes ne fermaient plus parce que la bâtisse avait bougé. Donc, c'est ça.
Est-ce que c'est votre propriétaire qui a payé?
Oui, elle a payé, elle a payé ça, mais en théorie, si j'étais capable de le faire, elle voulait que je le fasse.
Ouais,
mais ça, mais les cadrages de porte, je ne connaissais pas ça.
Ouais, ouais. Donc, merci. En tout cas, je comprends. Ouais. Merci beaucoup. Martin, votre situation à vous?
Oui, bonjour Isabelle et bonjour. Aux deux invités. Premièrement, j'ai beaucoup de sympathie pour les personnes qui sont au seuil de la pauvreté. Mmh. J'en doute pas, ça doit être affreux. Par contre, moi, présentement, je suis locataire. Je suis aussi en affaires. Et malheureusement, j'ai aucune sympathie pour les locataires parce que les propriétaires sont pognés à la gorge. Ils peuvent demander aucun dépôt de sécurité, aucun dépôt pour la clé. Ils n'ont absolument rien pour se protéger. J'ai visité des logements pour une connaissance à moi qui s'en vient s'installer à Québec parce que moi, j'habite à Québec. Et j'en ai visité des logements. Sur 5 logements que j'ai visités, il y en avait 3, c'était des départs soudains du locataire. Le propriétaire, il est pogné. Hey, écoute, là, pis c'est des sous à cochon, là. C'est vraiment pas beau, là, tu sais. Tu sais, en même temps, là, je veux dire, les propriétaires, là, c'est pas un OBL. Comprends-tu? Faut qu'ils fassent un petit peu d'argent, faut qu'ils fassent un petit peu de profit. Ce minimum. J'ai une maison à Saint-Nicolas. J'ai décidé de louer mon sous-sol. C'est un 3,5. J'ai voulu le partir haut parce que je savais que si je le commençais au prix du marché, je pourrais être pogné avec une augmentation que je devais prouver à chaque fois. Mmh. Fait que j'ai parti à 600 pour un 3,5. C'est un beau 3,5 chic dans un quartier résidentiel à CUP. Mais en même temps, j'ai un locataire. Parce que moi, en plus, j'avais peur de prendre un locataire. Tous les problèmes... un locataire. Pour tous les problèmes que ça peut amener. Moi, j'ai deux chiens. J'acceptais pas les chiens dans le sous-sol parce que on voit les dégâts. Des fois, on voit ça à JE, tu sais, puis les départs, ça n'a pas d'allure, tu sais. En même temps... J'ai une personne qui a appliqué et qui a dit « Écoute, si tu veux être dans le marché des 3,5, tu devrais louer 450. » Ben écoute, moi, j'ai envoyé promener. Je dis, j'ai pas dit ça, le fait, mais j'ai finalement...
L'avez-vous loué? L'avez-vous loué, finalement?
Je l'ai loué. J'ai, en même temps, en mettant ça à 600 $, j'ai pu, si on veut, classifier le type de clientèle que je voulais vivre dans le sous-sol de chez nous.
Mais vous avez trié.
Ça a bien fonctionné.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Puis en même temps, moi, je ne voulais pas prendre des inconnus. Ça a été sur Facebook avec une connaissance directe.
Ouais.
Donc, moi, j'ai pu demander à la personne, tu la connais-tu? Oui, parfait, je la prends. T'sais. Mais je trouve malheureusement que les propriétaires sont aucunement protégés avec tout ce qui protège les locataires.
Merci, moi, je trouve que monsieur vient de démontrer l'inverse. C'est que les locataires qui n'ont pas de connaissances, les locataires qui sont souvent des personnes seules dans le cas de Montréal, qui sont souvent des ménages à revenus très modestes, voire faibles, ont aucun recours à l'heure actuelle et ont même pas accès à l'information.
Les locataires,
en période de pénurie. Non, ils n'ont pas accès à cette information-là. Comme
la
je
régie
vous
du
disais,
logement, quand
la
même.
Régie du logement, c'est un recours quand tu es sûr de pouvoir, d'être fait avoir, passe-moi l'expression. Mais si tu veux avoir l'accès à l'information, il n'y a pas d'outil pour le faire. Et ce serait tellement simple d'avoir un registre des baux qui nous permettrait d'abord de suivre le parc de logements locatifs et de savoir comment il évolue puis arrêter de fonctionner à l'aveuglette, mais aussi de permettre aux locataires de pouvoir exercer convenablement leurs droits. Période de pénurie de logements, c'est clair que les locataires sont à la merci des propriétaires qui font des demandes abusives de loyer, voire qui cherchent à les expulser, surtout pour ceux qui vivent longtemps au même endroit.
Mais ce n'est pas évident d'expulser quelqu'un. Pas simple.
Martin est très important. Quand les propriétaires sentent qu'ils ne sont pas protégés, ils sont moins intéressés à louer des logements, ils le font, mais avec des garanties.
C'est vrai, ça, qu'il y a des gens qui ne louent pas, qui préfèrent que leur logement soit vide.
J'en connais des gens dont l'immeuble est presque payé, puis ils disent, moi, là, c'est fini, je ne veux pas avoir de troubles.
Ils s'assoient juste sur leur équité.
Oui, j'ai acheté un triplex pour avoir une qualité de vie. Finalement, je me retrouve souvent à la régie avec des loyers payés. C'est un stress que je ne veux plus vivre. C'est pas souhaitable. On doit avoir un système de justice qui nous permet non seulement d'avoir des décisions favorables, ça, c'est tout le monde s'y attend, mais des décisions qu'on peut exécuter. Donc, on peut récupérer notre argent. Malheureusement, vous le savez, les délais à la régie sont très longs. Il y a un projet de loi qui, on espère, va pouvoir améliorer un peu les choses. Mais globalement, des propriétaires se disent, moi, si je ne suis plus intéressé, à moins que ce soit un locataire qui a des bonnes références et une capacité de payer.
Il y a Véronique, on va aller à la pause. Il y a Véronique qui m'écrit qu'elle est propriétaire d'un duplex et elle dit, quand je compare le prix auquel je loue mon appartement versus le prix que ça me coûte en réparation, en entretien chaque fois qu'un locataire quitte. Ça, c'est un bon point aussi. Il faut, en général, repeindre, nettoyer. Des fois, il faut changer le tapis. Non, mais ça va être après la pause. Juste un instant, je veux juste finir le témoignage de Véronique où elle dit, je peux comprendre certains propriétaires d'augmenter le prix de leur loyer. Les locataires irrespectueux des lieux loués, malheureusement, font payer tous les autres. On va à la pause là-dessus. On revient avec vos commentaires.
Marie, vous m'avez écrit à 10h40, appelez-moi, je trouve ça intéressant parce qu'elle dit qu'elle vient d'acheter sa première maison puis qu'elle a dû s'éloigner car on n'avait pas les moyens d'acheter dans notre quartier, même si nous sommes deux professionnels avec un bon salaire. Elle habitait dans le quartier Rosemont depuis des années, on voulait vraiment y rester. Il était locataire et tout, mais bon, pour devenir propriétaire, ça, c'est l'autre affaire. Si tu veux devenir propriétaire, ben là, c'est une autre paire de manches. Là, c'est clair qu'il faut que tu t'en ailles à l'extérieur parce que le prix du logement à Montréal, l'achat d'une propriété en ville, c'est devenu, sincèrement, je sais pas comment les gens font. On a avec nous Daniel. Je pense que vous êtes propriétaire, Daniel.
Oui, je suis propriétaire depuis plusieurs années. J'ai monté déjà jusqu'à 72 portes et j'ai été tellement désabusé par la régie du logement. En passant, la régie du logement, pour moi, là, c'est une mafia légale.
Ça, pourquoi? Là, pourquoi vous dites ça?
Parce que, imaginez-vous le temps, l'énergie et l'argent que ça prend pour aller à la régie du logement. Là. Ouais. Tu perds ton temps complètement. Moi, j'étais allé là, regardez, j'étais membre de la Corpic, puis ils nous ont guidés. On s'est entendu que la Corpic, là, ils font pas de miracle. Là. C'est pas eux qui décident, c'est les régisseurs qui sont là-bas. Puis en plus, les régisseurs, quand tu vas à la régie du logement, là, ils donnent pas de décision sur le banc. Ils vont dire, on va t'envoyer ta décision dans 3 semaines. Fait que là, t'es là, t'attends pendant 3 semaines, t'as ta décision, puis c'est pratiquement toujours négatif. Tu sais, moi, je conseille pas à personne, mais à personne d'investir dans l'immobilier résidentiel. À moins que ce soit des personnes âgées, même encore là. Écoutez, moi, j'ai tellement eu de mauvaises expériences, puis j'étais un bon propriétaire, j'avais pas des logements à 1 000 $, là, c'est des affaires de 600-700 $, tout ça. Puis, regardez, même si tu gagnes à la régie, là, faut que tu prennes un détective, il faut que tu après ça, faut que tu envoies ça par courrier recommandé ou par huissier. Ça coûte de l'argent encore, tu peux jamais réclamer tout ça. Demandez-vous pas pourquoi il y a pénurie de logement, c'est trop cher, ça coûte tellement cher, puis malheureusement, les bons locataires payent pour les mauvais
locataires. Merci, Daniel. Miguel, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, c'était juste pour dire que dans le fond, moi, j'avais déjà habité dans un logement qui était quand même assez beau, bois franc, puis c'était fraîchement rénové. Moi, j'habitais là pendant 5 ans avec un vieux monsieur qui, lui, ne faisait pas d'augmentation depuis 5 ans.
Ouais.
Puis à un moment donné, ben, je suis arrivé, puis le monsieur me dit qu'il vendait à cause de l'âge. J'avais plus la force d'entretenir.
Ouais.
Fait que là, j'ai fait face à comme un changement de bail. Fait que j'ai renouvelé. Mais le nouveau propriétaire me chargeait 50 $ environ de plus.
Ouais.
Puis moi, j'avais déjà une entente parce que j'étais sur la CSST dans ce temps-là. Fait que j'avais une entente de payer mon loyer 2 semaines avec l'ancien propriétaire. Mais là, lui, le nouveau, genre, il m'a signé le nouveau bail sans aucun problème. Sauf que là, quand son bail à lui embarqué, direct dans le premier mois, me traînait à régie comme quoi j'étais en défaut de paiement parce que j'avais pas d'entente de signer avec. Fait que là, moi, au vu de recevoir la lettre de la régie, j'ai été le voir, j'ai dit, écoute, on peut-tu signer une entente?
On peut-tu se parler?
Ah,
ben
pas
oui.
Trouble, pas de trouble. Tu sais, j'ai dit, pas de trouble. Puis là, on a signé ça. Mais il a fallu que je me présente à la régie quand même, parce qu'il y avait eu quand même un papier d'envoyé, fait qu'on s'est présenté comme pour dire, ah, ben, on a réglé ça à l'amiable. Monsieur s'est pas présenté avec sa copie. Moi, je me suis présenté avec ma copie. En disant au juge que, il est déjà en défaut de paiement et tout. Fait que là, je fais comme, ben là, monsieur, j'ai signé une entente. Fait qu'il a eu l'air comme...
Un peu fou, finalement.
D'un beau clown, si vous prêtez l'expression. Puis, ben là, le loyer, ça en est trop cher pour moi, pour mes moyens. Fait que j'ai diminué ma qualité, dans le fond, de logement. Il a fallu que je déménage dans un loyer un peu plus, moins luxueux.
Dans le même quartier ou dans un autre quartier, Miguel?
J'ai déménagé à peu près peut-être 10 coins de rue plus loin.
Ouais.
Qu'est-ce qui est arrivé, dans le fond, c'est ça, c'est que le loyer est peut-être un petit peu moins beau, mais je paye moins cher.
Ouais.
Puis, ma qualité de vie aujourd'hui est meilleure parce que j'ai pas la pression d'un propriétaire qui vient tout le temps comme dire « Ah, oh, t'es en retard aussi, puis je suis obligé de prendre une entente avec le propriétaire. »
Ouais, mais effectivement.
Je peux juste passer un commentaire juste comme ça.
Rapidement, oui.
Je trouve qu'il y a, il y a beaucoup de monde qui vivent au-dessus de leurs moyens. Puis que des fois, on dirait que ce monde-là ne voit pas ça, puis aime le luxe. Donc, le monde aime habiter dans des beaux appartements, c'est bien beau, c'est bien rangé, les beaux meubles flambant neufs, mais tout le monde vit à crédit. Moi, je trouve que c'est une chose qu'il faut tenir compte aussi, de vivre selon ses moyens.
Ouais. Puis, mais c'est intéressant parce que vous avez... Je dois vous laisser là-dessus parce que je voudrais quand même avoir une petite conclusion de la part de mes invités, mais ce que je retiens, c'est que finalement, vous, pour vous sortir d'une entente plus ou moins agréable avec votre propriétaire, vous avez déménagé dans quasiment un autre quartier, vous payez moins cher, mais finalement, vous avez une meilleure qualité de vie.
Oui, mais au détriment de certains désagréments de finir mon bail, parce qu'il fallait que je le finisse, sinon j'aurais eu sûrement des frais exorbitants.
Ouais, il aurait fallu
j'ai
payer.
J'ai fini le bail,
ouais.
J'ai carrément déménagé, changé d'endroit.
Ouais. Merci beaucoup, Miguel, de votre témoignage. Il nous reste une minute. Marie-Josée Corriveau et Andy Brouillette. Marie-Josée, du coordonnatrice au FRAPRU, le Front d'action populaire en réaménagement urbain, donc qui s'occupe des gens là, qui ont de la difficulté à se loger et à se payer des loyers avec les salaires qu'ils font. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui, là?
Mais ce qu'on réclame, c'est de l'aide pour les gens qui risquent de se retrouver sans logis le 1er juillet prochain, comme ça avait été fait au début des années 2000. Ça
combien,
prend des mesures
d'urgence. On sait combien de gens?
On le sait pas encore. Ouais. On le sait pas encore. Ça va apparaître de manière significative, pas significative, de manière précise davantage à la fin du mois de juin. Les gens continuent à chercher, là. Et il y a des gens qui ont déjà décidé de quitter l'île de Montréal, par exemple, pour s'en aller vers Châteauguay. Le problème, c'est qu'à Châteauguay, il y a aussi une pénurie de logements. De la même manière que sur l'île de Montréal, il y a des gens qui voulaient être proches d'université, par exemple, ouais. Et qui finalement se retrouvent à Mercier-Est. De la migration comme ça qu'il y en a, ça va prendre de l'aide pour les gens qui, par ailleurs, n'auront pas réussi à trouver.
Ouais, il ne faut pas être tributaire des crises comme ça, là. Il faut vraiment avoir une politique d'habitation. L'offre et la demande doivent être planifiées à long terme, voir quelles sont les réglementations qui augmentent les coûts de construction et qu'on puisse avoir donc une marge de manœuvre là, afin de que les propriétaires soient intéressés à garder les logements en mode locatif et les rénover.
Merci beaucoup à tous les deux, puis on va souhaiter bonne chance à ceux qui se cherchent un logement. On se retrouve après les nouvelles.